Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Nous sommes en février 2025 et vous écoutez une interview de Proxy Jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Lana et je suis accompagnée de Drew. Bonjour Drew.
Bonjour Lana.
Et nous accueillons Armel Favry.
Bonjour.
Bonjour Armel. Armel a co-développé un jeu. Elle travaille à l'INRAE et on va se faire un plaisir de l'écouter après le petit fil rouge. On va faire un petit fil rouge pour découvrir un peu qui tu es, quelle joueuse tu es. Et comme on est à Cannes, on va parler As d'Or. Quel est ton As d'Or du jeu pour rire avec les potes?
Mon As d'Or à moi, c'est Feelings, dans le sens où c'est très porté sur les relations humaines. Mmh. Et pour moi, c'est très important, puisque de toute façon, c'est mon domaine de compétence.
Quel est l'As d'Or du jeu qui t'a fait le plus fumer le cerveau?
Gizmo, mais je suis toujours sur des temps courts. Effectivement, mais c'est Gizmo, c'est un jeu qui permet des enchaînements et qui permet d'avoir des opportunités pour imaginer des stratégies. Et c'est vrai que j'ai beaucoup adoré.
Quel est l'As d'Or du jeu auquel tu ne veux plus jamais rejouer?
Alors, de manière générale, c'est les jeux où il faut mentir. Et jouant beaucoup avec des enfants, famille, ça fonctionne pas toujours.
Et quel est l'As d'Or du jeu auquel tu penses encore 3 jours après la fin de la partie?
Alors là, on est sur Seven Wonders. Mais là, c'est simplement parce que chaque joueur a des comportements, chaque joueur a une caractéristique et on se demande toujours s'il vaut mieux accumuler ou s'il vaut mieux plutôt essayer de construire.
Et pour finir, quel est l'As d'Or du jeu le plus moche?
Je sais pas. Moi, je trouve qu'ils sont tous sympas.
Merci beaucoup, Armel. Eh bien, on va rentrer dans l'interview officielle. Est-ce que toi, d'abord, tu peux te présenter?
Oui, donc bonjour à tous, merci beaucoup de m'accueillir. Je suis Armel Favry, je suis ingénieure de recherche en communication et médiation scientifique à INRAE. Donc je suis avec des collègues qui travaillent en entomologie. Et INRAE, c'est l'Institut National de Recherche français pour l'agriculture, l'alimentation et surtout l'environnement.
Vous avez un stand sur Cannes, donc ça nous a intrigués, j'avoue. Et en fait, vous présentez un jeu.
Oui, en fait, on est là depuis 2 ans. Depuis le Fige de 2024 et on développe des jeux au sein de notre institut de recherche parce qu'en fait on a un objectif de transmettre les résultats de nos recherches. Donc le jeu, comme vous le savez, c'est un moyen simple de pouvoir apprendre en jouant et surtout le fait d'être dans une démarche positive, on retient beaucoup mieux. Et donc on a développé un certain nombre de jeux et cette année, et comme l'année dernière, on présente un des jeux qui est développé sur l'agroécologie. Alors c'est un jeu qu'on a développé avec des collègues de Sophia Antipolis, avec le laboratoire INRAE de Sophia Antipolis.
Tu dis que vous êtes obligé de communiquer vos résultats. C'est pas obligatoirement sous forme de jeu. C'est un choix qui vient de qui?
Alors, c'est un choix qui vient de moi. Moi, je suis la directrice en communication et médiation scientifique de tous les laboratoires INRAE en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et donc, je suis à leur côté pour faire de la communication simple, de la valorisation de leurs résultats, vous savez, à travers les conférences de presse, mais aussi les congrès scientifiques, les publications dans les revues. Mais pour toucher le plus grand public, il est important, en fait, et pour toucher aussi les jeunes, il est important de développer d'autres approches, d'autres outils plutôt ludiques ou pédoludiques et qui permettent comme ça de mieux présenter et de mieux appréhender ce que nous faisons. Le jeu qui a été présenté et nos jeux ont aussi d'autres objectifs puisque le slogan INRAE c'est sauver le monde. Vous savez qu'on a des difficultés à faire comprendre aux personnes que il faut changer de comportement, il faut avoir vraiment une autre approche, que là ça devient extrêmement sérieux. Et donc notre jeu c'est aussi ce que j'appelle la communication de changement de comportement. L'idée c'est de faire comprendre qu'il faut rapidement dès maintenant changer nos comportements par rapport à l'écologie, par rapport aux risques. Et nos jeux ont aussi cette vocation.
Est-ce que vos jeux sont considérés des serious games?
Oui, c'est des jeux sérieux puisqu'en fait, c'est aussi des jeux à message et c'est des jeux qui sont basés sur les travaux de recherche. Pour le jeu qui est présenté depuis 2 ans, c'est le jeu Stalin Vision. et c'est un jeu qui est sur de l'agroécologie. Donc en fait, c'est un jeu qui a un mécanisme de jeu qui fonctionne bien. Il a été testé pendant 2 ans et auprès de publics assez quelquefois difficiles, de gens qui n'ont pas l'habitude de jouer ou de personnes qui peuvent être dans des circonstances où ils sont mis en échec. Par exemple, on a joué dans des collèges de REP avec des élèves en difficulté scolairement. Donc on a fait un gameplay qui permet aux personnes, lorsqu'elles jouent, de pouvoir travailler en collaboration et de s'entraider. Et ceux qui avaient en première partie mieux réussi étaient en posture de pouvoir aider les autres. Et quelquefois, celui qui réussit n'est pas toujours celui qui est bon scolairement, qui a une intelligence académique, mais qui a plutôt une intelligence de relation, une intelligence de stratégie. Donc c'est un gameplay qui a été éprouvé pendant 2 ans en beaucoup de sessions de bêta test. Et là, cette année, nous avons une deuxième édition.
On a pu effectivement essayer le jeu, plutôt dans le salon, et tu nous disais que le jeu était mis à jour régulièrement avec les résultats des dernières recherches et du coup vous modifiez le jeu.
Oui, en fait là on est déjà à la deuxième édition, et entre la première et la deuxième édition nous avons fait des ajustements puisqu'il y a eu des nouveaux travaux, des nouveaux résultats de recherche scientifique. Donc c'est de la recherche en lutte biologique. La lutte biologique, c'est simplement le fait que sur la planète Terre nous avons des richesses que sont nos cultures, nos champs. Donc quand on récolte les fruits et les légumes, on en a besoin, nous, êtres humains, pour se nourrir et survivre. Et donc, nous avons, dans nos labos d'INRAE, nous travaillons à identifier des insectes qui sont les prédateurs ou les ravageurs, des ravageurs de cultures. Et donc, typiquement, nos découvertes, nos résultats de recherche avancent. Nous avons déjà des nouveaux ravageurs qui envahissent nos champs. Et nous travaillons dans nos labos sur des nouveaux auxiliaires de lutte biologique, c'est comme ça qu'on les appelle, qui vont nous permettre de nous aider à avoir moins de dégâts sur nos cultures, à mieux récolter. Et de ce fait, entre la V1 et la V2, on a eu ces nouveaux ravageurs. Nous avons une version V3 qui est prévue pour 2027. Elle sera aussi adaptée aux derniers travaux de recherche, tels que par exemple la durabilité des résistances, c'est-à-dire que dans ce jeu nous avons des protections de culture qui quelquefois, au bout de 5 ans, sont contournées par les ravageurs. Alors pour le public, si je peux donner un exemple, nous on a eu typiquement, vous avez vu le Covid. Le Covid qui nous a attaqué, c'est un organisme minuscule, il a été capable de nous mettre à plat, et régulièrement, avec la pression, puisque c'était un très grand nombre de personnes infectées, le Covid avait des variants et les vaccins ne fonctionnaient plus. Donc c'est ce qu'on appelle la durabilité des résistances des organismes.
Vos recherches sont publiques, puisque vous dévoilez tous vos résultats dans ce jeu, donc il n'y a pas de notion de secret à l'INRAE, vous pouvez diffuser largement tout ce que vous trouvez.
Oui, comme nous sommes un organisme public de recherche, tous nos travaux sont publiés. C'est ce qu'on appelle un bien commun. C'est-à-dire que nos scientifiques dans les laboratoires, on a deux niveaux. On a un premier niveau qui est la recherche fondamentale. Et la recherche fondamentale, c'est essayer de connaître les choses, connaître comment ça fonctionne. Et ensuite, nous, on est un organisme finalisé, donc il faut ensuite que ce soit applicable dans les champs. Typiquement, tout ce que nous mettons en place, comme la lutte biologique, il faut que ce soit économiquement acceptable par l'agriculteur, parce qu'il faut que ce soit déployable. Parce que au sein d'INRAE, nous avons des scientifiques qui sont certes en agronomie, aussi entomologistes. Donc entomologistes, c'est ceux qui étudient les insectes, que ce soit des insectes ravageurs ou des insectes auxiliaires qui nous aident. Mais nous avons aussi des sociologues et des économistes. L'idée est que tous nos travaux de recherche et les résultats puissent être applicables.
Ce jeu est présenté aux cultivateurs ?
Alors, le jeu est présenté aux cultivateurs, mais c'est plutôt un brise-glace, voilà, en entrée d'une session de discussion ou d'échange, simplement parce que tout ce qui est déployé dans le jeu, ce sont des choses qu'ils pratiquent depuis très longtemps. La mécanique du jeu, c'est que vous arrivez sur une nouvelle planète qui s'appelle Stahl. Et Stahl, c'est le nom d'un célèbre entomologiste suédois du 19e siècle qui a travaillé très longtemps au Muséum d'Histoire Naturelle de Stockholm et qui a énormément contribué à caractériser les insectes, à les classer. Et on a besoin de les classer pour mieux les connaître. Le jeu, vous arrivez sur une nouvelle planète qui s'appelle Stahl. Et cette nouvelle planète, vous y arrivez avec des graines qui vont vous permettre de récolter et vous y arrivez avec de la monnaie d'échange parce que vous allez devoir créer des alliances avec les ennemis de vos ennemis. Donc vous travaillez d'abord à cultiver, donc vous allez faire 5 tours et à la fin de chaque tour, vous avez un agresseur, un attaquant qui vient convoiter vos richesses. Ensuite, quand vous continuez à jouer, vous pouvez tout simplement soit protéger vos plantes, soit vous pouvez lutter avec un allié qui est l'ennemi de votre ennemi. Et pour ce faire, il va falloir faire des lancers de dés. Vous pouvez sinon utiliser des cartes effets qui vont vous permettre de renforcer la force de ces alliés en permettant par exemple de lancer de dés. Ou alors vous allez avoir des cartes d'aménagement du paysage, comme on dit, qui vont vous permettre, ou de pollinisation, qui vont vous permettre d'augmenter vos gains à la fin.
Et là, on sent bien qu'on rentre dans un thème et qui se raccroche au réel, dans le fait, par exemple, d'ajouter des haies qui permettent d'avoir plus d'insectes à cet endroit et de parcelliser un petit peu les agricultures pour ramener de façon assez homogène ces insectes. Les noms des insectes sont vraiment les noms réels des insectes qui sont les alliés contre les ravageurs. Vous avez fait un énorme travail. Qu'est-ce qui m'a surpris également, c'est que dans les solutions proposées, vous proposez en dernier recours une solution chimique.
Oui, en fait, nous sommes en agroécologie. Donc, beaucoup de pratiques sont utilisées en AB, en bio, mais en dernier recours, en agroécologie, vous pouvez utiliser un produit chimique, un pesticide. Et en fait, on a voulu l'installer dans le jeu parce qu'en dernier recours, si vous devez sauver des collègues, des voisins, des champs à côté et votre propre champ, si celui-ci a une valeur plus importante, parce qu'en fait, dans le jeu, si vous utilisez cette carte de pesticide chimique, vous avez une pénalité de pollution chimique, qui est une pollution, effectivement, qui a été dévoilée par les travaux de recherche depuis maintenant de nombreuses années et contre laquelle nous luttons. C'est pour ça que nous appelons agroécologie. Mais l'objectif de ce jeu, comme l'objectif de nos agriculteurs et de nos agricultrices, c'est de nourrir la planète. À INRAE, nous travaillons sur la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, c'est simplement avoir de la nourriture à proximité, c'est pouvoir se nourrir. Alors nous, forcément en France, les gens ne se rendent pas compte de tous les travaux, toute l'importance d'avoir des fruits et des légumes à proximité. Mais dans d'autres pays, c'est extrêmement compliqué. Donc la sécurité alimentaire, c'est quand même de se nourrir in fine. Et dans le jeu, on a voulu introduire la notion de pollution chimique, puisque nous avons de toute façon quelquefois l'importance de devoir éradiquer un ravageur, parce qu'il ne faut pas qu'il se propage sur le territoire, il ne faut pas qu'il anéantisse toute une filière. Et donc on a effectivement cette notion.
Dans les autres notions, le fait de lancer un dé par rapport aux alliés contre les ravageurs représente vraiment le fait que des fois ça marche et des fois ils n'attaquent pas, enfin ils ne défendent pas les cultures.
Tout à fait. En solution, là, pour lutter contre les ravageurs, on a parlé de la pollution. Les produits chimiques, enfin, les pesticides de synthèse. Et là, le lancer dé est de 100%. Parce que pendant de très nombreuses années, pendant 50 ans, les agriculteurs utilisant ces méthodes, ne sachant pas que c'était toxique pour l'environnement, ces agriculteurs savaient qu'en utilisant un produit chimique, c'était une réussite à 100% pour éradiquer les ravageurs. Maintenant, quand on utilisait toutes les solutions qu'on propose, qui est la résistance des plantes, résistance naturelle des plantes, ou alors le fait d'utiliser un auxiliaire, c'est pas du 100%. C'est pour ça que dans le jeu, il y a un lancer de dés. On a des auxiliaires, donc des insectes qui vont nous aider, qui s'installent facilement parce qu'ils sont autochtones, ils sont du territoire. On a le carabe, par exemple, qui lui peut nous aider, mais simplement son habitat a disparu. Donc en remettant des haies, on retrouve cet insecte, cette espèce, qui va nous aider effectivement à rééquilibrer ce qu'on appelle nous les régulations naturelles qui est d'avoir une biodiversité autour de soi. On a par contre d'autres alliés comme le trichogramme, donc c'est Trichogramma brassicae, qui lui est déjà utilisé en agriculture, en agroécologie sur donc tous les champs de maïs, toutes les cultures de maïs qui sont attaquées par la pyrale du maïs. Donc en France on en a 20% qui sont défendus par ces mini guêpes qui vont pondre leurs œufs dans la chenille de la pyrale et ainsi la détruire. Des agriculteurs en France utilisent donc ces Trichogramma brassicae pour protéger leur culture. Et là, typiquement, c'est plus dur. En lancer des, c'est un plus 4. C'est simplement un peu plus dur parce que ce sont des insectes qu'on doit en fait utiliser en inondation. C'est-à-dire qu'on en achète un grand nombre. C'est un one shot. une fois que la pyrale a disparu, cette mini-guêpe qui a besoin pour faire son cycle de vie de la chenille de la pyrale, si la pyrale a disparu, la pyrale du maïs, il n'y a plus ses alliés.
Et ce sont des recherches compliquées, puisque si le fait d'introduire de nouveaux insectes pour combattre des insectes, il ne faut pas que ces nouveaux insectes deviennent des nuisibles pour d'autres espèces ou se diffusent à des endroits où on n'aurait pas prévu.
Oui, ce sont des travaux qui durent de nombreuses années. Lorsqu'on a une invasion qui est constatée, une invasion d'un insecte ravageur, voilà, souvent ce sont donc des chenilles qui sont extrêmement voraces, que l'on ne détecte pas au début. Elles arrivent du monde entier, vous savez, avec tous les échanges commerciaux qui se passent de marchandises et de personnes, on a voilà, beaucoup d'invasions qui ne réussissent pas, heureusement. Et on a des invasions qui réussissent, malheureusement, et que l'on découvre lorsqu'elle est suffisamment importante, suffisamment installée. Donc la difficulté pour nous, nos chercheurs, c'est de d'abord monter des programmes de recherche, aller chercher des financements. Ensuite, on a tout un processus, puisque on ne veut pas prendre le risque d'avoir cet insecte ou les insectes qu'on pourrait réintroduire envahir et effectivement déséquilibrer notre écosystème, je dirais territoire ou même français. Donc, lorsque l'on va chercher dans la sphère d'origine du ravageur quels sont ses parasites ou ses prédateurs, on a besoin de demandes d'autorisation de les rapatrier et on les rapatrie dans des bâtiments qui sont des bâtiments de confinement, qui sont des bâtiments homologués et on fait des dossiers de demande de rapatriement que l'on dépose à l'ANSES et qui nous donne les autorisations donc d'étudier dans ces milieux confinés voilà comment se comportent ou comment même peuvent s'être élevés ces auxiliaires de lutte biologique. Ensuite, on va passer aux expérimentations de terrain. Quand il a été prouvé qu'il n'y a plus aucun souci d'effet non intentionnel de ces alliés, on fait une demande d'autorisation d'expérimentation sur le terrain. Et là, c'est encore 3 ou 4 ans de travaux pour voir si les auxiliaires de lutte biologique qui ont été identifiés peuvent être, d'une part, suffisamment, peuvent s'installer vraiment pour réguler continuellement ou s'ils peuvent suffisamment éradiquer le ravageur. Typiquement, entre la version 1 du jeu Stalin Vision et la version 2, on a dû enlever un auxiliaire, Ganaspis, contre la mouche Suzuki qui attaque les fraises et les cerises, simplement parce que c'était pas suffisamment efficient.
Et on comprend pourquoi la V3 n'est prévue que dans 2 ans. Mais un gros travail, enfin, on est vraiment plongé dans l'univers et avec les explications que tu avais apportées lors du jeu, on comprend vraiment la thématique et la mécanique. C'est très très bien imbriqué, bravo. Beau travail. D'ailleurs, comment s'est passé ce travail? Tu n'as pas travaillé seul. Comment vous vous êtes répartis les rôles sur ce jeu?
Alors, comme il y a un fondement scientifique, nous sommes 3 auteurs. Donc, 2 entomologistes, Alexandre Bou et Nicolas Harris, qui sont donc des ingénieurs de recherche qui travaillent à INRAE et à Sophia Antipolis sur, effectivement, la lutte biologique. La lutte biologique, ça fait plus de 60 ans qu'on y travaille. Et un des premiers succès, c'est effectivement la guêpe Trichogramma brassicae contre la pyrale du maïs. Mais on a beaucoup d'autres réussites à notre carnet. On a aussi la guêpe Suzuki, l'insecte Suzuki, qui est contre les fraises et les cerises, où on a pu travailler avec BT, Bacillus thuringiensis, BT qui est utilisé en agriculture biologique. On a tout un travail comme ça aussi sur les châtaigneraies, où on a réussi à éradiquer le cynips du châtaignier. Et ce sont des réussites qui donc ont été mis en jeu, en dynamique de jeu. Donc tout le travail qui a été fait, ça a été d'abord de faire des illustrations qui ont été donc validées maintes fois par nos scientifiques sur la forme des insectes, et ensuite les pondération par rapport au fait de pouvoir vraiment refléter la réalité, et ça permet aussi d'avoir des explications, c'est-à-dire que nous avons créé des vidéos courtes d'interviews de scientifiques qui sont dans le jeu et qui permettent d'approfondir pour ceux qui veulent en savoir plus, hein, tous ceux qui sont intéressés, qui se posent vraiment la question de ben comment c'est complexe d'avoir une agriculture sans pesticides, parce que les consommateurs veulent manger du bio, mais c'est pas toujours facile de pouvoir produire, et donc il est important de savoir comment cela est complexe. Ensuite, donc moi je suis ingénieure de recherche, je travaille sur tout ce qui est communication d'accompagnement au changement. Mes 2 collègues et moi, nous sommes des joueurs, nous aimons jouer, nous aimons les dynamiques de jeu, nous aimons les dynamiques de comportement qui se passent autour des tables, les comportements, les profils des personnes, comment les caractères se dessinent, c'est vraiment très intéressant. Et donc nous avons travaillé à une première version que nous avons beaucoup exploité j'étais en école, en fait, mais plutôt en lycée, puisque depuis 2019, c'est le programme des secondes. En SVT, ils ont un nouveau programme, donc, a été en 2019 inscrit au bulletin officiel, qui est... qu'est-ce qu'un écosystème par rapport à un agrosystème ? Et un deuxième chapitre qui est la durabilité des agrosystèmes. Et donc ce jeu a été testé avec beaucoup de professeurs de SVT, dans une dynamique de classe, dans des sessions pédagogiques. Et donc nous avons affiné la mécanique de jeu ensemble lors de ces différents bêta-tests.
Quelles sont les réactions au sein de l'INRAE quand on dit on va prendre les recherches et on va en faire un jeu, notamment auprès de tes camarades auteurs, comment ils ont réagi, et de la sphère scientifique plus généralement ?
Alors, je dirais que je savais pas que c'était interdit, donc je l'ai fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un jeu pionnier, puisque nous avons travaillé dès 2019 et 2022, donc une première version est sortie. Alors, à INRAE, nous avons énormément de jeux, plus d'une centaine, mais ce sont des jeux sérieux et ce sont des jeux que l'on appelle des jeux pour l'action. Là, c'est un jeu, notre jeu, c'est un jeu que nous qualifierons de jeu sérieux de médiation scientifique, qui présente des travaux de recherche et qui présentent des travaux typiquement des stratégies, voilà, en agroécologie. Mais les autres jeux que nous avons sont quelquefois des jeux sur des sujets de niche, comme par exemple les vaccins pour les ovins. Et ce sont plutôt des jeux qui sont utilisés avec des dynamiques donc autour d'une table pour, on appelle ça fertilisation croisée. C'est pour que les différents acteurs qui sont autour d'une table, donc ce sont les agriculteurs, mais vous pouvez aussi avoir dans certains cas des apiculteurs. Vous avez des conseillers de chambre agricole, vous avez des élèves, des élèves d'école d'ingénieurs, d'école d'agronomie, des chercheurs. Et le jeu permet en fait de mettre sur table les éléments de discussion et de pouvoir montrer des équilibres ou des déséquilibres et de pouvoir amener à la discussion. Et ça permet de mettre tous les savoirs au même niveau. Les savoirs terrain, les savoirs scientifiques, voilà, ça ne met pas de barrières et ça permet d'ouvrir et de faire de bonnes introductions ou de bons ateliers de concertation.
Quand j'ai découvert votre jeu sur le portail du Fige, hein, où il était présenté, j'étais surpris parce que je cherchais le nom d'un éditeur, comment il avait été développé. En fait, sur la boîte, il y a juste le logo INRAE et le drapeau français avec la Marianne, Liberté, Égalité, Fraternité. Comment l'avez-vous développé ? Vous êtes associé à un éditeur qui n'a pas mis son nom ? Vous avez tout fait vous-même ?
Alors, nous avons travaillé avec des fabricants de jeux, avec des personnes qui aussi... Nous avons échangé, je dirais, sans qu'il y ait vraiment de partenariat, mais avec des éditeurs, des concepteurs de jeux. Et on a utilisé aussi des outils de concepteurs de jeux de société, voilà, qui en fait permettent de réfléchir aux différentes solutions, aux différentes mécaniques de jeu qu'on peut introduire ou pas. Nous, notre difficulté, c'était d'avoir un jeu dont les règles se comprennent assez facilement, qu'il n'y ait pas de biais ou d'erreur de vulgarisation par rapport à nos travaux de recherche. Alors, pour la V3, puisque la mécanique fonctionne mieux maintenant, on souhaite s'éloigner... Enfin, pour que la mécanique de jeu fonctionne, au début, nous nous sommes beaucoup éloignés du sujet scientifique. On ne parlait pas d'auxiliaire de biologique, on parlait d'alliés, d'attaquants, de richesses. On ne parlait pas de culture, on ne disait pas qu'on cultivait. Ça permettait vraiment de travailler sur le gameplay. Maintenant que le gameplay fonctionne, et même si on va un peu le consolider avec, par exemple, l'introduction d'objectifs cachés ne se révéleront qu'à la fin du jeu pour la V3, il est clair que maintenant on peut se permettre de revenir plus au sujet qui est de pouvoir se nourrir et survivre sur une planète. Pour la version 3 qui paraîtra en 2027, nous avons rencontré beaucoup d'éditeurs et de distributeurs qui sont intéressés, et actuellement en interne à INRAE, nous allons les prochains mois travailler à un modèle économique qui nous permettra effectivement de sortir ce jeu à très grande échelle avec le partenariat que nous allons développer. Ça sera révélé dans les prochains salons à Vichy et puis mais aussi pour nous au salon de l'agriculture, puisque nous avons une très belle vitrine sur ce salon-là, et ce jeu a aussi pour objectif de montrer la complexité de produire sans utiliser de produits chimiques. Et finalement, lorsque vous êtes un joueur, vous êtes placé en situation d'être un agriculteur qui le matin arrive sur son champ et voit qu'il a été infecté. Et que va-t-il faire de sa journée ? Est-ce qu'il va utiliser son temps et son argent à aller chercher des auxiliaires de lutte biologique qu'il faut acheter ? Est-ce qu'il va passer son temps, sa journée, parce qu'il l'avait prévu ainsi, d'aller mettre des filets sur l'autre parcelle d'à côté ? Ou est-ce qu'il va, parce qu'il l'avait prévu aussi finalement, aller semer sur un nouveau champ. Et ça, c'est la vraie problématique. Et ce jeu a pour objectif d'éviter l'agribashing. L'agribashing, c'est le fait que les consommateurs considèrent que c'est très facile de produire une alimentation saine sans utiliser de pesticides. Et ça, c'est faux. Donc voilà, on voulait simplement avoir ce jeu-là. Donc le salon de l'agriculture avec ce jeu, ça prend tout son sens pour sûrement 2027.
La V2, donc, est sur la fin, on va dire. Vous avez fait un petit tirage. C'est un jeu qu'on peut acheter.
La V2, actuellement, est un jeu qui fonctionne bien et qui a été édité à 500 exemplaires. Édité à 500 exemplaires et dont 300 sont déjà partis. Avec le bouche à oreille, en grande partie, je dirais à 40% chez les prof de SVT. Et oui, elle se commande effectivement. Donc, on a un distributeur actuellement qui est Jeu Délire. Sur le festival, il s'est vendu dans les boutiques de la crypte du jeu. Et sinon, il est commandable en ligne sur inrae.fr.
Je me posais la question, on en a parlé dans un débrief. Hein, le jeu m'a fait, moi, forte impression et en effet, il remue beaucoup de choses. Ce qui est son but et ça fonctionne. Je me posais la question de la rejouabilité parce qu'il y a quand même un gros twist dans le jeu, qu'on ne divulgue évidemment pas à l'antenne, mais est-ce que c'est rejouable ? Est-ce que la V3 donnera une rejouabilité ?
En fait, la rejouabilité, elle se gagne d'abord parce que vous avez du hasard. Donc là, nous avons comme hasard le fait d'avoir les ravageurs qui sortent au hasard. On ne sait pas qui va arriver et qui va attaquer. Donc il y a une problématique avec une stratégie, effectivement, à un moment donné, de bien choisir sa culture, puisqu'il y a des cultures sensibles qui se font facilement qui sont résistantes. Et la rejouabilité, c'est aussi le fait d'avoir des objectifs cachés qui vont être différents à chaque fois. Et nous avons aussi le fait d'avoir des... Dans ce jeu collaboratif, il y a aussi les comportements de collaboration qui fonctionnent ou quelquefois qui ne fonctionnent pas. Il y a 10 jetons de collaboration qui se gagnent effectivement et qui se comptent à la fin. Et ces jetons de collaboration en sont en nombre limité.
Et ce qui est intéressant aussi dans ce jeu, c'est que on montre bien que nos effets ont des effets sur nos voisins. Parce que typiquement, si je déploie un insecte pour protéger mon champ, cet insecte ne va pas rester dans mon champ, il va aussi aller protéger les champs à côté. Et il y a une vraie comme ça collaboration, même au départ, dans le jeu individuel, avant que le jeu bascule en coopératif, mes actions ont des actions positives pour mes voisins.
En fait, c'est ce qui est dans ce jeu une réalité, c'est que vous savez, le monde agricole bénéficie aussi d'une forte solidarité. C'est-à-dire que, je sais pas, les anciens connaissent le mot corvée. Les corvées, c'était simplement autour d'une grosse machine de la coopérative de la CUMA qu'on avait emprunté. Tous les agriculteurs se mettent à moissonner ensemble, faire l'ensilage ensemble. Tous les voisins se regroupent les journées et ça s'appelle les corvées, avec des grands repas le soir. Et on travaille beaucoup comme ça dans le monde agricole. Donc c'est ce qu'on voulait replacer sur ce jeu, c'est cette solidarité entre joueurs. Les joueurs ont la possibilité et même quelquefois pour gagner le devoir de placer une protection sur le champ du voisin parce que le voisin n'a plus de jetons, n'a plus de monnaie d'échange pour le faire et il faut venir l'aider. Vous avez aussi effectivement ces alliés qui lorsqu'ils combattent et réussissent le combat sur un champ se répandent sur l'autre champ et continuent le combat. Ça, c'est tout ce qui est lié aux régulations naturelles qui existent dans une nature. La nature, dans un écosystème naturel peu impacté par l'homme, il n'y a pas de plantes malades. Tout se régule parce que tout est arrivé à l'équilibre. Mais sur une terre agricole où effectivement la même variété, la même espèce est cultivée, vous avez des problématiques de nouveaux ravageurs qui arrivent sans avoir aucun contrôle et aucune barrière.
Et quel est le retour du public sur ce salon ? À tous les gens que tu as pu faire essayer, ils ont apprécié le jeu, ça les a intrigués, surpris, ils ont appris des choses ?
Oui, en fait, sur ce salon, sur le FIGE, chaque année, on a le plaisir de partager avec, pendant les première journée avec les professionnels. Donc ce sont des échanges très intéressants sur les dynamiques de jeu, sur l'intérêt d'avoir des explications aussi, parce que c'est un jeu atypique, puisque c'est un jeu qui s'adosse effectivement sur un organisme de recherche. C'est l'un des premiers par un organisme de recherche, et ça dénote effectivement par rapport aux autres types de jeux. On a échangé depuis pendant 2 jours avec les familles qui viennent, avec les élèves. On a tout de suite une accroche et un bienfait que l'on ressent pour ceux qui sont dans le monde agricole. On a eu beaucoup de ludogites qui sont venus, et les ludogites qui ont acheté le jeu parce qu'en fait ils veulent raconter aussi ce qu'ils vivent. Ce sont des, ben là en l'occurrence je me rappelle d'une discussion avec une maraîchère qui a un ludogite, et elle était enchantée de pouvoir raconter ce qu'elle vivait, ce qu'elle faisait. On a aussi des gens qui dans des animateurs d'autres tables qui sont venus, puisque ce sont des personnes qui sont aussi dans des associations d'éducation à l'environnement, et donc les personnes qui ont une sensibilité en écologie, et bon, et aussi bien sûr hein, en agriculture à plus forte raison, mais en écologie, sont vraiment contents de découvrir ce jeu.
On l'a été également.
Merci.
Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu voulais nous parler?
Je voulais vous remercier de cette tribune, de ces échanges avec vous. C'est vraiment très appréciable. Comme c'est un jeu qui dénote un peu, je vais vous donner rendez-vous pour à tous vos auditeurs, hein, pour aussi la V2, mais aussi pour pour ceux qui sont curieux dès maintenant, et puis pour la V3 en 2027. C'est un jeu qui aura donc des extensions, puisque nous suivons nos travaux. Donc merci beaucoup à vous, et puis merci à ProxyJeux.
Merci beaucoup à vous, c'est un beau jeu qui mérite d'être connu en effet. Chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la sur vos réseaux sociaux favoris. Vous pouvez également nous aider en nous faisant un don. Pour cela, vous trouverez toutes les informations utiles sur la page d'accueil de notre site podcast.proxy-jeux.fr. Proxy avec un i et jeu avec un x. On se retrouve très vite sur ProxyJeux pour une autre interview ou un autre format. À bientôt, et surtout,
jouez bien.